Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 32 à 35 pour notre méditation dominicale. Actes, chapitre 4, versets 32 à 35. Au nom de Jésus. Le groupe des croyants était parfaitement uni, de cœur et d'esprit. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres, en distribuant ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Amen. D'où notre thématique de ce dimanche, les œuvres bonnes ne sont pas les bonnes œuvres. Dimanche passé, nous avions eu comme thème, si vous vous rappelez, le tombeau vide est témoignage et non un spectacle. Donc il y a toujours cette notion de témoignage qui est le fil rouge de nos cultes ces temps-ci. Pour ce dimanche, nous continuons encore sur le même répertoire et le texte nous parle de la puissance de la résurrection qui se manifeste dans la création de la communauté chrétienne. C'est grâce à la résurrection que l'Église a vu jour. L'Église n'est pas une institution humaine. L'Église grand E, l'Église invisible. L'Église est le fruit de la résurrection, parce qu'il est bien dit dans ce texte, tous ses disciples se sont réunis et ont commencé à rendre culte à Christ, pour témoigner le Christ ressuscité. La communauté chrétienne est le fruit direct de la puissance de la résurrection de Jésus. C'est pour cette raison que Jésus a dit « Même les portes de l'enfer des séjours des morts ne pourront rien faire contre l'Église, puisque c'est le Christ qui l'a fondé sur sa résurrection. » Il est très important de le souligner car une quelconque communauté, il y a plusieurs communautés dans le monde, toutes les communautés ont toujours existé dans toutes les civilisations confondues et toutes les religions. Chacun a sa propre communauté. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une communauté, nous les chrétiens. Et d'ailleurs, par définition, une communauté, c'est un ensemble de gens qui partagent des goûts, des valeurs, des opinions semblables, et qui s'identifie soit à une tribu qui le ressemble, comme les partis politiques, les associations, les cercles d'amis, associations sportives, etc. Tout ça, ce sont des communautés. D'ailleurs, on parle aussi de communautés virtuelles actuellement, comme nous le vivons maintenant. Toutefois, la substance ou l'ADN qui fait notre différence, qui fait vivre la communauté chrétienne, c'est l'évangile de la résurrection. Et ce que je vous dis là vous semble peut-être très banal, très basique, mais malheureusement, comme je l'ai maintes fois dit dans mes méditations, certaines communautés s'y éloignent de plus en plus de cet ADN qui devient, malheureusement, les communautés chrétiennes deviennent juste qu'un lieu de rassemblement. pour se tenir compagnie. Parfois, les lieux, les communautés chrétiennes deviennent juste, se réduisent qu'à un lieu de chant, qu'à un lieu musical, à un lieu de rencontre, etc., etc. Or, ce qui doit animer en premier lieu nos communautés, ça devait être l'évangile grand E. L'auteur du livre des Actes met en exergue que l'Église, elle est vivante parce que c'est la dynamique de la résurrection qui l'anime. Voilà une Église vivante. Ce n'est pas l'animation qui fait la force d'une communauté, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus qui donne la vie à une communauté, et c'est cette résurrection qui nous anime à témoigner, qui nous pousse à témoigner par nos différents dons que l'Esprit Saint a donné à son Église. La communauté chrétienne fonctionne de façon totalement différente par rapport aux autres communautés qui existent. Le texte ici parle que la multitude de ceux qui étaient devenus croyants étaient un seul cœur et une seule âme. Et j'aime bien ce dernier passage, une seule âme. L'Église a une âme en elle. C'est le Christ qui est l'âme de l'Église. Il est question d'unité avec le Christ. Unité avec le Christ avant toute chose. Et ce n'est qu'après que vient l'unité des chrétiens. L'unité avec le Christ. Vous voyez la croix ici devant, verticale. Avant toute chose, et vient par la suite l'unité des chrétiens. L'âme de la fraternité chrétienne est tout d'abord une communion avec le Christ ressuscité. Il n'y a pas d'unité des chrétiens sans l'unité avec le Christ. Et l'apôtre Paul l'explique bien dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous. Donc, l'unité avec le Christ. Si je reformule ma phrase, l'unicité, c'est-à-dire le fait d'être unique, l'unicité du Christ conditionne l'unité et non l'inverse. Avec cette formule qui est devenue à la mode, l'unité dans la diversité n'est pas notre slogan chrétien. Pour nous, l'unité dans l'unicité, voilà pour nous chrétiens. Il n'y a pas d'unité possible avec mon frère et sœur s'il n'est pas en Christ avec moi. Beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent sur ce texte aujourd'hui, se précipitent à inciter les gens à se lancer dans une forme de solidarité. L'Église doit être solidaire avec la société, etc. Qui n'est pas mauvais en soi, bien sûr. Mais ici, dans le texte, tout ce qui était devenu croyant, c'est-à-dire tout ce qui était touché par le message de la résurrection, ont instantanément donné leur bien pour aider les autres. Donc l'Église n'a pas appelé les gens « soyez généreux pour aider la société ». Mais ceux qui ont été touchés par la résurrection, sans avoir été exhortés à le faire, ils apportaient leurs dons devant les pieds des apôtres. Donc, c'est la résurrection de Jésus qui les a animés à donner, mais pas l'appel à la solidarité. Vous voyez la différence. Il y a un domaine de définition bien précise en Christ Donc, je peux avoir de bonnes relations avec des amis, mes collègues de travail, bien sûr. Je peux avoir de bonnes relations avec mes voisins dans le quartier. Je peux avoir de bonnes relations avec mes collègues de bureau ou d'autres personnes qui sont dans une toute autre religion, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, animistes, athées. C'est pas un problème. Mais il est impossible d'avoir une communion avec eux. Relation amicale, oui. Mais communion, non. Parce que seule l'unité est conditionnée par l'unicité de Dieu que nous servons. Et je reprends une citation de Paul qui éclaircit bien mon propos dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal ? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord entre le Christ et Bélial ? Quelle part pour le croyant et le non-croyant ? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles ? Rien. Donc faites attention d'agir avec complaisance parce que tu aimes ton ami et que tu dois céder ta foi. C'est un péché. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Vous pouvez boire le café ensemble, vous pouvez partager le repas ensemble, vous pouvez jouer au foot ensemble, mais quand il s'agit de la foi, je suis désolé, il faut choisir son camp. Ah oui, mais il m'a invité à assister à une cérémonie, on ne sait pas quoi, mais par amitié, parce qu'il est le parrain de mon fils, je devrais y aller. Il y a un choix à faire. Amitié, fraternité, oui. Communion, non. Et il y a un jeu de mots qui peut bien résumer la différence entre une communauté chrétienne et une association ou une communauté laïque. Je mets entre guillemets le mot laïque. L'Église, oui, l'Église, elle fait de bonnes œuvres. Des œuvres bonnes, pardon. Tandis que les communautés profanes ou laïques ou citoyennes font de bonnes œuvres. Et dans l'épître de Paul à Timothée, dans sa lettre pastorale, il précise bien seuls ceux qui sont inspirés par les Saintes Écritures qui seront à la hauteur pour toute œuvre bonne. C'est pas tout le monde qui accède aux œuvres bonnes. Et voilà ce qu'il est dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser, pour rééduquer dans la justice. Écoutez la suite. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, équipé pour toute œuvre bonne. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Si je reformule ma phrase, celui qui peut apporter des œuvres bonnes, c'est celui qui a été redressé, éduqué, enseigné par les Saintes Écritures. Donc, vous voyez, les œuvres bonnes sont les fruits de l'enseignement de la Bible. Mais pas ma générosité. Ce n'est pas la générosité qui est en question ici. Et vous savez, il y a des gens qui sont plus généreux que nous, les chrétiens. Ils font même plus que nous. Mais ça ne compte pas aux yeux de Dieu, malheureusement, même si devant la société, ils reçoivent tous les honneurs. Mais les œuvres bonnes que Dieu considère, ce sont les œuvres fruits de l'enseignement, de l'éducation, du redressement de la parole de Dieu. Voilà ce qu'est les œuvres bonnes. Ça veut dire que celui et celle qui font des choses bonnes, mais pas inspirées des Saintes Écritures, ne seront pas considérés par Dieu. Et c'est pour cette raison, rappelez-vous ce que Jésus avait dit dans les évangiles, le jour du jugement où viendra, « Seigneur, on avait fait ceci en ton nom, on a fait ça, on a fait... » Mais je vous ne connais pas, c'est dur d'entendre ces mots. Il a dépensé toute sa vie pour des œuvres caritatives, à gauche, à droite, mais Dieu ne l'a pas compté comme de bonnes œuvres. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas le fruit de sa relation avec le Christ. C'est le fruit de sa générosité, oui. C'est le fruit de l'altruisme, oui. Mais non, ce n'est pas ça l'œuvre que Dieu attend de nous. Donc vous avez compris, ce ne sont pas les œuvres qui comptent, même si elles sont louables, mais uniquement la source où nous puisons leur accomplissement. Alors nous, Église de Jésus-Christ, ressource-toi auprès de celui qui est ressuscité d'entre les morts, et c'est lui qui te poussera à accomplir les œuvres bonnes qu'il attend de toi. Amen.